Donc, le retour enfin à Jean chapitre 5. Et nous allons même terminer le chapitre 5. Donc, nous allons lire les versets 31 à 47. Et pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. Jean chapitre 5, verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. C'est un autre qui rend témoignage. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face ou son apparence. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes. Mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire, les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Prions. Notre Père, en te remerciant pour ta parole sainte, nous te prions, enseigne-nous ce que nous ne savons pas, donne-nous ce que nous n'avons pas, et fais de nous ce que nous ne sommes pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez prendre place. Je vais commencer ce matin avec un fait qui va ne surprendre strictement personne ici ce matin. Et voici le fait que je vais partager. Le monde est rempli de personnes qui ne croient pas en Jésus. Il y a peut-être certains parmi vous ici présents qui appartiennent clairement, ouvertement à cette catégorie et vous êtes tout à fait les bienvenus. On est ravis de vous accueillir. D'autres parmi vous ont le souvenir de ce que c'était d'appartenir à cette catégorie, de ne pas croire en Jésus, mais n'y sont plus. D'autres peut-être qui n'ont jamais vraiment connu ce que c'est de ne pas croire en Jésus. Et c'est une merveilleuse chose. D'autres encore qui appartiennent à cette catégorie sans se rendre compte. Ceux qui se diraient chrétiens, qui disent qu'ils croient en Jésus, qui pensent qu'ils croient en Jésus, mais sans démontrer dans la vie qu'ils se sont confiés véritablement à lui. Et d'autres, tout en croyant en Jésus, qui ont du mal à tenir ferme face à l'opposition du monde, avec leurs arguments, et le mépris, le scepticisme qu'on voit partout et qu'on entend partout. Quelle que soit votre position par rapport à tout cela, la foi en Jésus, nous avons sous les yeux ce matin un passage très important qui nous présente des questions essentielles au sujet de la foi et de l'incrédulité surtout, ou du scepticisme. Et il s'agit en plus d'un de ces passages où l'on peut vivre très clairement la réalité du fait que lorsque nous lisons la Bible, c'est aussi la Bible qui nous lit, nous. Lorsque nous entendons la voix de Jésus engager la réflexion avec nos têtes, on le sent aussi pénétrer nos cœurs. Souvenons-nous, ou sachez pour la première fois peut-être, que le but de ce livre de l'apôtre Jean n'est pas uniquement de présenter une biographie de Jésus et nous apprendre des choses, mais comme il écrit vers la fin de l'évangile, chapitre 20, verset 31, « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors, ça fait très longtemps depuis la dernière fois qu'on était dans l'évangile de Jean. C'était avant le premier confinement même. Donc, presque, non? Pas tout à fait, mais presque. Mais pour nous situer, on est à la fin, la conclusion de cet épisode important, centré sur le troisième des sept signes que Jean présente dans son évangile pour atteindre son but de vous démontrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le troisième sur sept. Jésus, tout d'abord, il a changé l'eau en vin, puis il a guéri le serviteur d'un soldat, et puis il a guéri ici un homme malade depuis 38 ans. Il a souligné dans tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, le sens de ce signe. Ce n'était pas juste un geste sympa qu'il a fait pour quelqu'un. Il y avait plein de malades, on l'avait appris. Mais c'est un chapitre où, comme j'avais dit plusieurs fois il y a un an, donc je vous rappelle, qu'il faut laisser les signes indiquer ce qu'ils indiquent. Il faut en saisir le sens. Il y a plusieurs leçons liées à ce signe-ci. Jésus a indiqué dans ce qu'il dit à l'homme que si souffrance il y a, c'est un signe de la présence du péché dans le monde. Pas du péché de cet homme en particulier ou quelque chose qu'il a fait en particulier, mais de la rébellion qui pénètre le monde entier, de toute la race humaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, une des réactions que l'on devrait avoir face à la souffrance, que ce soit une petite rhume ou toute la catastrophe de la Covid, c'est de se rendre compte que c'est parce que l'homme a choisi de briser les relations avec Dieu et de se repentir à nouveau. Et la guérison qu'a effectuée Jésus pour cet homme indiquait que Jésus est celui qui apporte le salut, la résurrection, la vie. Et sa décision de réaliser cette guérison, de faire cette œuvre, ce signe, le jour du sabbat, comme on va au verset 17, ça indiquait la position privilégiée de Jésus, son statut de fils de Dieu, son égalité avec le Père. Le Père est constamment en train de travailler, donc moi aussi je le fais. Et les juifs, c'est-à-dire les leaders religieux de l'époque, c'est le terme qu'emploie Jean pour eux, les juifs, eux, ils saisissent en réponse à tout cela, au verset 18, que puisqu'il disait que Dieu était son propre Père, il se faisait ainsi égal à Dieu. Et il décide alors de chercher à le faire mourir. Mais dans le discours qui suit, on voit Jésus affirmer cette idée de son égalité avec le Père, en disant, je résume, tout ce que je fais, c'est ce que fait le Père. Et puis il a dit, tout ce que je dis, c'est ce que dit le Père. Et ce que je dis a des implications éternelles en termes de jugement et de vie éternelle. C'est un discours riche qui nous fait plonger dans les mystères de la doctrine de la Trinité, de qui est Dieu. Donc, je ne vais pas replonger dans tout ça après un an, mais il y a les enregistrements qu'on peut trouver si vous voulez. Mais Jésus se révèle en tant que Dieu venu pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour rétablir la communion intime avec notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais devant lui, bien sûr, il y a une foule qui n'est pas tout simplement sceptique ou agnostique, mais il a carrément de l'opposition. Une foule de personnes qui veulent qu'il soit mis à mort pour ses propos. Et au cours de cet évangile, à partir de cet épisode où on voit cette opposition se fortifier et s'approfondir. Et dans cette conclusion de ce discours de Jésus que nous regardons ce matin, nous nous trouvons dans une salle d'audience presque. Et Jésus présente des preuves pour soutenir ce qu'il a dit. Des preuves, des témoins, des témoignages. Mais au fur et à mesure, on doit se rendre compte que ce n'est pas Jésus qui est sur le banc, mais plutôt les auditeurs. Et dans cette dernière partie du discours, Jésus leur parle de deux sujets. Il parle dans un premier temps de témoignage, au verset 31 à 40, et puis dans un deuxième temps, au verset 41 à 47, il parle de la ténacité. Donc témoignage et ténacité. Donc tout d'abord, il parle du sujet du témoignage au verset 31 à 40. Et pour commencer, avant de parler de la grandeur du témoignage qu'il a, il souligne la grandeur de ses propos. Il fait cela avec deux points. D'abord, au verset 31, il explique que s'il était seul à avancer ses affirmations, il serait clairement menteur. Alors, il y a certains qui voient dans ce verset une référence à la loi de l'Ancien Testament, comme Deutéronome 19,15 par exemple, qui dit qu'un seul témoin ne serait pas valide, ne serait pas suffisant. Et c'est possible, c'est surtout pertinent et le cas plus tard dans l'évangile de Jean. Mais je ne pense pas que ce soit le cas ici. Jésus ne dit pas que son témoignage ne serait pas valide, mais qu'il ne serait même pas vrai. C'est-à-dire que les propos qu'il a avancés sont si lourds et glorieux et grands que s'il n'y avait que lui qui en témoignait, ce serait forcément faux. Il comprend et il souligne qu'il est bel et bien en train de dire qu'il est égal avec Dieu. Eh bien, évidemment, si Dieu n'a rien dit ou n'a rien fait, ce serait clairement pas vrai. Et c'est la même idée qu'il avance au verset 33 à 35. Ces versets sont presque comme une parenthèse. Lorsque Jésus dit au verset 32, « C'est un autre qui rend témoignage de moi », ce n'est pas une référence à Jean-Baptiste, en fait. On a ici une parenthèse. Il introduit Jean pour souligner encore la gravité de ses propos. Alors, le témoignage de Jean-Baptiste était vrai, bien sûr, et Jésus rappelle que les Juifs, qu'ils étaient pendant un moment, une heure, un moment, absolument ravis du ministère de Jean-Baptiste. Ils avaient envoyé des prêtres et des lévites, comme on a vu au chapitre 1er, pour demander « Qui es-tu ? Es-tu Élie ? Es-tu le prophète ?» Et non. Et dans un sens, son témoignage aurait dû suffire, dans le sens qu'il était le messager de Dieu. Mais on voit aussi au verset 34 que ce n'est pas un homme qui va confirmer la divinité de quelqu'un. Personne ne va dire à Dieu lui-même « Attends un instant, Seigneur, je vais juste vérifier avec cet homme-là pour voir si ce que tu dis est vrai. » Ce n'est pas un homme qui va confirmer ce que dit Dieu. Un homme peut l'annoncer, mais ce n'est pas lui qui va le prouver ou être la preuve. Donc le fait de mentionner Jean, il le fait, mais il le dit, mais puis il dit « Je ne reçois pas le témoignage des hommes ». Et donc ça souligne la grandeur de ses propos. Ce n'est pas un homme qui peut rendre témoignage à mon sujet. Donc le témoignage était là, mais ça ne suffit pas. Mais notez quand même ce que dit Jésus. Ce n'est pas le témoignage de Jean qui va confirmer des propos aussi grands que ceux de Jésus. Mais c'était quand même un témoignage vrai. Et il rappelle aux Juifs, vous avez quand même écouté ce témoignage. Vous vous étiez même réjouis de son témoignage. Ce message que je prêche n'est rien de nouveau. Jean a quand même dit qu'il préparait le chemin pour quelqu'un. Il a dit que c'était moi. Souvenez-vous de ce temps dans vos vies. Vous avez entendu cette bonne nouvelle. Pourquoi l'avez-vous laissé tomber? Pourquoi avez-vous perdu de l'intérêt? Alors, ce n'était pas la lumière. La lumière, c'est moi. Mais c'était quand même une lampe, un instrument pour apporter la lumière. Et en fait, Jésus fait allusion ici à la fin du psaume 132. Donc, j'ai cité un bout plus tôt au début du culte. Donc, le psaume 132, c'est un des cantiques des montées que les Juifs auraient connu très bien, qu'ils auraient été, et ça me semble qu'ils auraient été vraiment dans leur pensée à ce moment-là, parce qu'ils sont tous là à Jérusalem pour une fête des Juifs, et donc ils auraient chanté ces cantiques démontés au cours de leur pèlerinage vers Jérusalem. Et là, on est vers la fin des montées, donc c'est vraiment le psaume auquel ils auraient réfléchi. Et il y a deux mots dans les versets 16 et 17 du psaume 132 dont Jésus fait écho dans son discours ici. Sauf que ça ne se voit pas du tout dans la traduction Colombe du psaume. C'est une des rares occasions où la Colombe déçoit. Mais cette fois-ci, c'est la traduction d'Osterwald qui dit ce qu'il faut, qui nous donne la traduction en plus littérale. Donc, psaume 132 et les versets 16 et 17, nous lisons ceci. « Je revêtirai de salut ces sacrificateurs et ces fidèles chanteront d'une grande joie. » C'est là que je ferai lever une corne à David et que je prépare une lampe à mon oint. Et dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, on a les mêmes mots pour grande joie et lampe dans le psaume 132 que nous trouvons ici dans Jean 5. Donc le psaume 132, comme les prophètes aussi, enseignait qu'il y aurait quelqu'un qui allait préparer le chemin pour le Messie. Celui qui est oint de Dieu. Donc Jésus dit, vous les Juifs, vous auriez dû attendre cette lampe et accueillir de grandes joies. Mais vous auriez dû attendre et accueillir avec encore plus de joie le Messie pour lequel cette lampe préparait le chemin. Mais laissez indiquer au signe ce qu'ils indiquent. Souvenez-vous de la joie que vous a apporté Jean. Et encore une fois, laissez les signes indiquer ce qu'ils indiquent. Et pourquoi cette parenthèse sur Jean, verset 34 ? Afin que vous soyez sauvés. Vous qui me haïssez, vous qui cherchez à me faire mourir, je veux vous sauver. Je veux, en tant que votre Dieu, rétablir la communion brisée. Je veux vous donner la vie éternelle. Je veux vivre en communion intime avec vous pour toute l'éternité. Souvenez-vous, suivez les signes. Quelle miséricorde, quelle grâce de dire une telle chose à ceux qui étaient à l'instant même en train de décider comment ils pourraient le faire mourir. Donc il a souligné la grandeur et la gravité de ses propos, il a démontré qu'il sait très bien que ses propos sont vraiment énormes et qu'il lui faut alors des témoignages en béton pour soutenir son égalité avec Dieu. Et heureusement qu'il a cet autre témoin en béton. Et cet autre témoin, c'est Dieu lui-même. Et on ne peut pas avoir de plus fiable que ça. Et Jésus le démontre en deux temps. D'abord au verset 36, les œuvres que Jésus accomplit, ce qu'il fait et ce qu'il dit aussi, rendent témoignage divin de Jésus. Ce sont des œuvres que le Père lui a donné d'accomplir. Et ce n'est pas juste que Jésus a fait ce qu'il voulait et qu'il a dit après, ben, c'est Dieu qui m'a dit de le faire, parce que ça ne marche pas comme témoignage. Mais la nature de ces œuvres démontre leur origine divine. Il n'y a personne qui parle comme Jésus. Il n'y a personne d'autre qui fait ce qu'il fait, si ce n'est Dieu lui-même. Ce n'est pas juste que ce qu'il fait est bon et impressionnant, mais c'est le fait que tout ce qu'il fait porte l'empreinte de la divinité. La gloire du Père lui-même se voit dans toutes les œuvres de Jésus-Christ. Voici donc le premier témoignage divin. Puis, pour être encore plus clair, il dit au verset 37, « Le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. » À quoi fait-il référence ici? Il y a certains qui pensent qu'il parle de la voix de Dieu qui s'entendait lors de son baptême. Et sans doute, c'est un témoignage clair que Dieu a rendu de son Fils. Mais ce n'est pas un détail que Jean avait mentionné dans son récit du baptême. Il a parlé de l'Esprit qui est descendu, mais il n'a pas parlé de la voix. Ce n'est pas pour dire que Jean, l'auteur, n'y croit pas, Les évangiles, ils mettent des accents différents sur les détails différents. Et ce serait bizarre pour Jean de faire référence à ça sans l'avoir mentionné avant. Donc je ne pense pas qu'il parle de ça ici. Il me semble plutôt qu'il faut lire les versets 37 à 40 tous ensemble. Et donc il parle du témoignage de Dieu dans les Écritures. C'est pour ça qu'il parle de la parole de Dieu au verset 38. Donc certains disent, ce n'est pas la parole parce qu'il n'a pas parlé de la parole avant, des Écritures avant verset 39. Mais en fait, il parle de la parole au verset 38. Donc c'est un tout. Il me semble que dans les versets 37-38, il présente dans des termes implicites la reproche qu'il présentera dans les termes explicites dans les versets 39 et 34. Donc c'est une répétition presque. On pourrait paraphraser les versets 37 et 38 ainsi. « Le Père m'a rendu témoignage lui-même dans les Écritures que vous prétendez connaître si bien. Vous prétendez espérer en Moïse, lui qui a entendu la voix de Dieu. Mais c'est clair que vous n'entendez pas ce que dit Dieu. Vous prétendez être des descendants de Jacob qui a vu la face ou l'apparence de Dieu. » Ce mot employé ici est celui qu'utilise Jacob, au moins dans la traduction grecque de l'Ancien Testament de Genèse 32. Lui, il a vu l'apparence de Dieu, mais c'est clair que vous ne voyez pas ce que voyait Jacob. Vous n'êtes pas non plus comme le psalmiste et tout son peuple qui se réjouissait de méditer la parole et de laisser la parole vivre en eux. Vous n'êtes pas comme ça. Et tout cela se voit parce que vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Et puis il le dit explicitement au verset 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est fou. Si vous étiez véritablement des experts des Écritures, vous m'auriez reconnu. Vous êtes peut-être plus que capable de me donner le mot et même la lettre centrale de chaque chapitre, de chaque livre, de toutes les Écritures. Mais vous êtes incapable d'identifier la personne centrale dont parlent toutes les Écritures. Vous avez calculé le nombre de lettres dans chaque partie. Mais vous n'avez pas calculé que c'est moi, le Sauveur que Dieu vous a promis. C'est moi qui a entendu Moïse et qui a vu Jacob et qui a vécu vraiment avec mon peuple. C'est moi le Sauveur. C'est comme si quelqu'un vous parlait en plein détail d'un sujet, au sujet d'une fenêtre. Le type de vitre, l'épaisseur, la taille, le cadre, la couleur, tout ça sans jamais parler de la vue qu'il voit par la fenêtre. C'est ridicule. Mais ne ratez pas le détail important. Il n'est pas trop tard. Il est encore là, devant eux, en train de leur proposer la vie. La grâce de Dieu est devant eux en train de s'annoncer, mais ils refusent. Vous ne voulez pas venir envers moi pour avoir la vie. Ils refusent la vie. Quel est le problème donc? Pourquoi ces hommes qui connaissent si bien les Écritures étaient-ils incapables de reconnaître Jésus et pourquoi refusaient-ils de venir à lui pour avoir la vie? C'est là que Jésus, ayant parlé au sujet du témoignage, doit parler de leur ténacité au verset 41 à 47. Donc pourquoi ces hommes restent-ils dans leur ténacité? Pourquoi refusent-ils de venir à Jésus? Dans notre texte, Jésus souligne deux différences clés entre lui et ses auditeurs qui nous aident à comprendre le sens. Donc le premier, on l'a déjà vu au verset 34, il dit « Je ne reçois pas le témoignage de l'homme, donc je ne dépends pas du témoignage de l'homme ». C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui pourrait confirmer mes propos, puisque je parle de mon égalité avec le Père. Donc, il ne reçoit pas le témoignage de l'homme. Et verset 41, la deuxième différence, il ne reçoit pas la gloire des hommes. C'est le même verbe qu'il employait. Et vous diriez peut-être, mais la Bible est remplie de commandements de glorifier Dieu et de donner gloire, rendre gloire à Jésus. On en a chanté aujourd'hui. Et vous aurez raison, parce qu'on a, carrément chanté ça aujourd'hui. Mais il parle ici dans le sens de chercher l'approbation. Jésus dit, je ne vis pas pour le bravo des hommes, mais pour le bravo de Dieu. Et voici la racine de leur blocage à eux. Ils sondent les Écritures, mais ils vivent pour la gloire, l'approbation, le bravo des hommes. Ils vivent pour les likes et les retweets et les abonnements sur leur chaîne YouTube. Lorsqu'ils servent, que ce soit à la maison, à l'église ou n'importe où, c'est pour que leurs gens leur disent « bravo, merci infiniment, que ferait-on sans toi ?» Les introvertis comme les extravertis. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose de remercier quelqu'un. Et ce n'est pas une mauvaise chose donc d'être remercié. Mais lorsqu'on cherche ça, et surtout lorsqu'on vit pour ça, drapeau rouge, lorsque je me demande, m'a-t-on remercié, plutôt que, ai-je fait ce qui est bon aux yeux de mon Père Céleste, que j'aime, drapeau rouge. Eux, ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Ils n'aimaient pas vraiment Dieu. Ils s'aimaient eux-mêmes. Ces Juifs auraient peut-être pensé que c'était parce qu'ils s'opposaient à Jésus, que Jésus était peut-être un peu fâché contre eux et donc donnait ce discours. Mais il explique au verset 43 que c'est le cas opposé. C'est justement parce que je cherche plutôt la gloire de Dieu que la vôtre, que vous ne me recevez pas. Si un autre soi-disant Messie venait en son propre nom et il faisait plein de choses pour vous plaire, vous seriez ravis. Et il avait raison. On trouve plein d'exemples de faux messies mentionnés dans les écrits des rabbins de l'époque. Et certains étaient très, très appréciés par les leaders juifs. Jésus a identifié donc la racine de leur incrédulité. Et il le dit très clairement au verset 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Personne n'aborde ces questions le cœur neutre. La clé, c'est ce qui se passe dans le cœur. Et soit on est pour soi, soit on est pour Dieu. Et Jésus leur dit, vous lisez la loi et vous vous dites, je vais montrer aux autres combien je suis fort avec toutes les règles du sabbat. Vous allez au temple pour prier, pour faire vos sacrifices, mais uniquement aux heures de pointe. Vous préférez que les hommes vous trouve bon et pieux que de vivre en communion avec Dieu. Vous préférez que les gens disent « Ah, qu'est-ce que c'était un pasteur magnifique !» que d'entendre depuis le trône de Dieu « Très bien, bon et fidèle serviteur. » Et si je cite un exemple de pasteur, c'est parce que je suis très conscient que moi aussi j'ai besoin d'entendre ce que dit Jésus ici. On pourrait aussi paraphraser ce que dit Jésus ici en disant « Vous préférez que les gens parlent à droite et à gauche de votre exemple dans la piété, votre hospitalité, vos études bibliques, toute l'évangélisation que vous faites, votre générosité, vos paroles d'encouragement, de votre courage. Vous préférez savoir ou même juste espérer que les gens parlent de tout ça. Vous préférez ça que de vivre pour Dieu lui-même. Vous préférez être reconnu par les hommes que par Dieu. Puisque vous vivez comme ça, forcément, la foi dans le Sauveur de Dieu vous sera impossible. On pourrait résumer l'argument de Jésus en disant, qui dit juste, vous êtes juste idolâtre. Pourquoi ne croyez-vous pas? Parce que vous avez choisi autre chose. Et vous le faites même la Bible dans la main. Et la conclusion de Jésus à la fin du chapitre est très forte. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Le problème, ce n'est pas que vous croyez Moïse, mais pas Jésus, c'est que vous ne croyez même pas Moïse. Et pourtant, Jésus est encore là, il parle encore, il n'est pas parti. Il n'est pas dit, bon, j'en ai ras-le-bol et je pars. Non, il est encore là. Il est encore là en train de proposer la vie, le salut, même à ses ennemis. Pourquoi les hommes, les femmes, des garçons, des filles, partout, ne croient-ils pas en Jésus? Pourquoi, lorsqu'ils entendent la bonne nouvelle de Jésus, choisissent-ils de la rejeter? Et quand je dis rejeter, je parle autant du fait de rejeter par l'activité religieuse que par de l'athéisme explicite. Ce que l'on voit très clair ici dans le discours de Jésus, c'est que ce n'est pas à cause d'une manque de preuves. On entend très souvent des gens dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour cet évangile. Ou bien d'autres qui disent, bah, les gens ont essayé de deviner la vérité par rapport à Dieu ou ce qui pourrait être là, et personne ne sait vraiment. Et ils le disent pourtant de façon très sûre de soi. Mais on le sait, Jésus l'a dit très clairement, le témoignage est très fort. Et Jésus dit très clairement ici que si vous ne croyez pas, au lieu de demander pourquoi n'y a-t-il rien à voir, demandez-vous plutôt pourquoi vous fermez les yeux. Ou pour utiliser le langage qui nous est devenu malheureusement très familier cette année, ce n'est pas que Jésus et ses témoins ont le micro coupé. C'est vous qui refusez de mettre le son de votre côté. Et pourquoi? Parce que l'homme cherche la gloire de l'homme. Ce n'est peut-être pas la pensée principale, explicite qu'on a chaque jour. Comment puis-je être glorifié par des gens aujourd'hui? Mais on sait ce que c'est de vouloir être remarqué par d'autres. On sait ce que c'est d'espérer qu'un tel ou une telle nous voit faire quelque chose et nous fasse une remarque après. On sait aussi très bien ce que c'est de vivre dans une culture dédiée à la gloire de l'homme. On en vit pour célébrer les exploits humains. Une culture où on ne veut pas utiliser ses dons pour servir, mais où on veut s'exprimer avec ses talents pour faire preuve de la gloire de l'humanité. Ça se voit dans des petites choses qu'on fait tous les jours, mais ce n'est pas non plus découragé dans nos alentours. Donc vous allez à Versailles, et vous voyez sur le château, toutes les gloires de la France. Vous allez aux Invalides, et vous voyez autour de l'énorme tombe de Napoléon. Napoléon qui est, je précise, il est mort. Et on voit graver dans le mur tous les exploits magnifiques de Napoléon pour qu'on puisse les lire et les admirer. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais il est quand même mort. Nous respirons ce genre d'attitude partout, et c'est meurtrier. On entend les gens dire parfois, bon, la foi, on l'a, on l'a pas. Et moi, je suis juste pas quelqu'un de très croyant. J'ai juste pas la foi. Ben oui et non. Mais dans un sens, c'est vrai, mais ça peut changer. Mais ça nécessite un énorme changement de votre part. Pas dans la capacité de croire, mais dans la racine. Il faut arrêter de vivre pour la gloire humaine, pour le bravo et les likes de l'homme, et vouloir vivre à la gloire de Dieu. Autrement dit, il faut la repentance, une transformation d'attitude où l'on se détourne de nos idoles, de la gloire de l'homme, de tout ce qui a captivé nos cœurs pour mettre notre confiance en Jésus-Christ. Jésus qui, comme il a dit au verset 34, est là pour sauver. Jésus qui a continué à parler à ces hommes pour leur proposer la vie éternelle. Jésus dont je suis le serviteur pour vous proposer la même chose en son nom. Le salut, la vie éternelle auprès de lui. Même si vous vous diriez carrément ennemi de Jésus ce matin, comme l'étaient ces Juifs, il veut encore vous sauver. Il veut vous donner la vie. Il est vraiment venu pour donner la vie éternelle, c'est-à-dire le privilège de connaître en communion intime Dieu le Père et Jésus-Christ qu'elle a envoyé éternellement. C'est ça la définition que Jésus va donner au chapitre 17 de la vie éternelle, connaître Dieu pour toujours. C'est pourquoi l'apôtre Jean a écrit ce livre, pour que vous croyiez qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que choisissez-vous alors? Si vous hésitez, je dirais juste que je sais très bien, que vous savez très bien, que le fait de vivre pour le bravo d'autres gens, ou pour n'importe quelle autre chose, ne vaudra jamais le coup. On le sait tous, si on est honnête. Ces Juifs vivaient pour le bravo les uns des autres, et même pour le bravo de Moïse. Mais c'était la folie. Et si Moïse était là, il aurait dit lui-même. Il les aurait condamnés même. C'est un choix important. C'est un choix qui doit se confirmer chaque jour pour nous tous. Donc si vous hésitez ce matin, parce que ce serait la première fois que vous prenez cette part, et ça prend tellement de courage pour prendre un si grand pas, pour choisir un si grand changement d'attitude et de direction dans sa vie, ne vous inquiétez pas, on va tous prendre le même pas ensemble, même si c'est pour la millième fois. Mais laissez les signes indiquer ce qu'ils indiquent et placez votre foi dans ce Fils divin qui est venu pour vous sauver, qui est venu donner sa vie pour vous, qui est mort sur la croix pour vous, qui est ressuscité pour vous, pour partager cette vie avec vous. Alors prendre ce pas, c'est ce qu'on va faire maintenant dans un moment de prière. Et puis notre prochain cantique, mais prenons d'abord un moment de silence pour réfléchir, décider peut-être, et nous préparer à nous confier à Jésus, que ce soit pour la première fois ou la 10 000e fois, prenons cette décision. Donc, réfléchissons. Seigneur Jésus, Fils divin, nous reconnaissons et nous confessons que tu es le Fils de Dieu, envoyé par le Père pour nous réconcilier avec lui, pour vivre dans l'intimité éternelle avec lui et avec toi, dans la communion de l'Esprit. Notre Père Céleste, nous confessons que nous sommes tentés et distraits si facilement par la gloire des hommes, par le bravo des gens, mais nous reconnaissons que c'est pour ta gloire que tu nous as créés. Et c'est alors à ta gloire que nous voulons vivre. Pardonne-nous notre rébellion, notre refus de ta grâce. Donne-nous la foi pour que nous puissions nous repentir et saisir, étreindre Jésus-Christ tel qu'il nous est proposé librement dans ton saint évangile. Et nous confier à lui, nous dépendre de lui, seul, pour notre salut. Donne-nous le courage de changer notre attitude et notre comportement et de prendre le risque d'être remarqué par ceux qui nous entourent, mais sans chercher leur bravo à eux, mais ta gloire seule. Et nous prions ces choses au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.